Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Patience Ngalula Banangi. À la une de cette édition d'information, les gouvernements américains invitent les parties au conflit dans l'est de la RDC à observer dès ce vendredi à minuit une trêve humanitaire de 2 semaines. Pour sa part, le gouvernement congolais confirme cette trêve afin de permettre les retours volontaires des déplacés et faciliter l'accès au personnel humanitaire dans les zones concernées. Au Kasaï oriental, l'épidémie de choléra déclarée par le gouverneur des provinces ce jeudi sur toute l'étendue de la province. Selon lui, 30 cas de choléra, dont 4 décès, sont enregistrés depuis la 10e semaine épidémiologique à ce jour. L'invité de ce journal est Patrick Mouyayakatemwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Il confirme l'arrêt des hostilités dans la zone de combat à l'est de la RDC sur l'appel du gouvernement américain. Bonjour à toutes et à tous. Au Nord Kivu, les parties au conflit armé opposant la RDC à la rébellion du M23 sont appelées à observer dès ce vendredi à minuit une trêve humanitaire de 2 semaines. L'annonce vient du gouvernement américain. Dans un communiqué officiel rendu public hier jeudi, la Maison-Blanche dit saluer cette trêve dans laquelle se sont déjà engagées les parties impliquées. Bernardin Nyangui.
La situation humanitaire en Nord Kivu est désastreuse, avec près de 3 millions de personnes déplacées internes, indique la Maison-Blanche dans ce communiqué. Selon les États-Unis, la récente expansion des combats dans le grand nord de la province a empêché les travailleurs humanitaires d'atteindre des centaines de milliers de personnes déplacées autour de Kanyabayonga, alors que les mêmes combats ont forcé plus de 100 000 autres personnes à fuir le milieu. L'administration Biden, qui appelle toutes les parties à respecter l'esprit de la trêve avant qu'elle n'entre en vigueur dès minuit ce vendredi 5 juillet 2024, assure que les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur soutien à cette trêve humanitaire de 2 semaines. Une trêve qui vise à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est de la RDC. Rappelons qu'à la suite de l'intensification des combats autour de Kanyabayonga, certains humanitaires, tels le cas du CICR, ont suspendu fin mai 2024 leur distribution d'aide alimentaire en faveur des personnes déplacées installées dans la zone à cheval entre le sud du territoire de Lubero et le nord du territoire de Rutshuru. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
De son côté, le gouvernement congolais confirme la trêve humanitaire de 2 semaines obtenue par les États-Unis d'Amérique dans la crise de l'Est du pays. Cet arrêt des hostilités qui intervient ce vendredi 5 juillet à minuit doit permettre les retours volontaires des personnes déplacées et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave. Dans une interview accordée à Radio Kapi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement indique que la RDC compte sur la vigilance des FARDC et les mécanismes mise en place par le gouvernement américain pour faire le monitoring sur l'effectivité de l'observance de ces mesures par la partie rwandaise. Patrick Mouyayakatemwe répond ainsi au micro de Blaise Shindani Kambala.
Oui, je confirme la trêve obtenue par la Maison-Blanche dans le cadre justement de l'urgence humanitaire dans l'Est de la RDC. Comme vous le savez, il existe une initiative portée par Avril Haines, qui est la chef des services d'intelligence américains, qui a été dans la région pour voir les deux chefs d'État. C'est donc dans le cadre de ces mécanismes qui visent notamment la désescalade entre les deux pays qu'une trêve a été obtenue pour permettre justement d'apporter l'assistance et l'appui humanitaire aux populations qui sont décimées par tous ces conflits et par les attaques répétées de l'armée rwandaise.
Quelle garantie pourra avoir la RDC pour savoir que cette trêve est respectée même de l'autre côté?
Pour les cas en question, nous comptons sur la vigilance de nos FARDC, mais nous comptons aussi sur le mécanisme mis en place par le gouvernement américain pour s'assurer que le monitoring est assuré sur place et pour que la trêve produise ses effets dès ce jour le 5 juillet.
Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sera l'invité de ce journal. Dans l'entretemps, la RDC totalise à ce jour près de 7,3 millions de déplacés internes et la réponse humanitaire est insuffisante malgré les efforts consentis par le partenaire. C'est le coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC qui l'a dit hier à l'issue de sa rencontre avec la première ministre Judith Suminwa. Bruno Lemarquis dit espérer que les solutions politiques vont aboutir pour permettre à tous ces déplacés de retourner chez eux. On écoute Bruno Lemarquis dans cet extrait proposé par Alain Hurong.
La RDC a maintenant à peu près 7,3 millions de déplacés, ce qui est gigantesque. En pourcentage, ça parle mieux. 40% de la population de l'Itourie, imaginons ce que c'est, 40% de la population de l'Itourie est déplacée. Plus de 30% de la population du Nord Kivu est déplacée. Plus de 20% de la population du Sud Kivu est déplacée. Donc on espère vraiment que les solutions politiques, les processus en cours vont porter des fruits parce que c'est vraiment la condition sine qua non pour arriver à ce que les gens retournent chez eux, les conditions soient réunies pour que les gens retournent chez eux. Nous, j'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars n'est financé qu'à à peu près un quart, ce qui veut dire que la réponse humanitaire pour les personnes déplacées, les personnes qui vivent dans des états de grande précarité est vraiment insuffisante. On remercie tous les efforts qui sont faits, les efforts considérables qui sont faits par nos partenaires, mais c'est simplement pas suffisant. Il suffit d'aller à l'est de la République démocratique du Congo, il suffit d'aller dans des sites de déplacés pour voir que la réponse n'est pas adéquate.
Par ailleurs, des milliers de familles déplacées vivent toujours dans une grande précarité au Nord Kivu. Par exemple, l'image des familles déplacées entassées dans les salles des classes était considérée au départ comme une situation passagère. Cependant, plus de 2 ans après, nombreuses sont les familles qui attendent d'être relocalisées vers des sites aménagés. Pour ces déplacés, il serait mieux d'être plutôt relocalisés vers leur village afin d'atténuer la souffrance sans nom qu'ils traversent depuis tous ces temps. Rosalie Zawadi nous présente la situation au sein d'une école dans le nord de Goma.
Ils sont plus de 300 ménages déplacés, un peu plus de 1600 personnes à se partager les 12 salles de classe de l'école primaire KMB. Ces déplacés vivent dans une promiscuité insoutenable, loin de tout semblant de vie normale. Bernard Hategeka, gestionnaire des sites sur l'axe Kanyaruchinya pour l'organisation EIDES, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social, déplore les conditions de vie de ces ménages.
La salle que nous avons visitée regorge 46 ménages et les ménages font face à une promiscuité dans la salle. Vous voyez, c'est un peu compliqué, donc les besoins sont énormes. Malgré que l'OIM fait les transferts de ménages, il y a toujours à faire pour peut-être désengorger toutes les salles afin que les ménages quand même vivent dans des conditions un peu améliorées dans les abris d'urgence.
Étant donné que les financements de plusieurs acteurs humanitaires n'étaient pas prévus pour une si longue période, nombreux se sont désengagés. Ces déplacés demandent le retour rapide de la paix afin de pouvoir regagner leur milieu d'origine. Pour eux, si même les besoins des bases comme les abris ne sont pas satisfaits, la seule solution reste le retour. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En Ituri, les représentants des communautés Ira et Ema lancent un appel à leurs membres à ne pas céder à la manipulation en se livrant aux violences. Ils ont fait cette déclaration commune jeudi au cours d'un point de presse à Bunia à la suite d'une tension qui s'observe entre les deux ethnies. Ils dénoncent des messages véhiculés dans les réseaux sociaux pour entretenir la haine et la xénophobie, avec comme conséquence la destruction de certaines maisons de commerce. Isaac Remoyope.
Des images circulent dans les réseaux sociaux sur un membre de la communauté Hema qui serait tué par des inconnus à Lubero dans le Nord Kivu, ce qui a suscité une tension dans certaines localités, notamment dans les territoires des Djougouani-Touri, où certains ressortissants de cette province font l'objet de menaces. À Bunia, un groupe de personnes a saccagé la nuit dernière une boutique près des sites de l'ISP. Les représentants des deux communautés Nituri dénoncent la manipulation de certains de leurs membres pour exacerber les violences. Selon le président de Yira, il n'y a aucun problème entre les deux communautés qui sont toujours soudés, Mouindo Moufalme.
Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est sur base de cela que nous sommes mis d'accord pour mettre nos membres au calme, qu'il n'y a pas de problème entre la communauté Yira et la communauté Hema.
De son côté, le président intérimaire de Hema demande à la population de promouvoir la cohésion sociale pour ne pas aggraver la situation sécuritaire déjà précaire en Ituri. Michel Angaïka.
Le moment est grave et par conséquent, ça ne vaut pas la peine d'aggraver ce qui est déjà grave. Nous voulons que les gens se calment. Nous n'avons pas intérêt à créer encore de nouvelles morts. Nous demandons en tout cas que les gens se calment. Au lieu d'appliquer la loi des talions.
Les enquêtes se poursuivent pour tirer au clair cette affaire, indiquent les deux parties. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Encore un corps sans vie découvert ici à Kinshasa ce matin dans un caniveau sur l'avenue Père Boka, non loin de l'Institut supérieur pédagogique ISP, dans la commune de la Gombe. La police scientifique était sur place pour les constats. Elle a finalement amené les corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Il s'agit d'un deuxième cas en l'espace de 24 heures. Le mercredi, un autre corps d'un homme, identifié comme chauffeur de taxi Yango, a également été retrouvé toujours dans la Gombe, cette fois-là derrière l'immeuble de l'ONATRA. L'association des chauffeurs du Congo précise qu'il habitait Lemba. Dans les deux cas, les corps avaient les pieds et les mains ligotés, ce que confirme la police de la Gombe descendue sur place. Elle affirme avoir constaté les mêmes modes opératoires pour les deux cas. Les corps retrouvés aujourd'hui portaient en outre des blessures et d'autres traces de violence sur la tête. La police poursuit des investigations, notamment pour identifier la victime et élucider les circonstances de ces deux meurtres. Au Kasaï oriental, le gouverneur des provinces a déclaré ce jeudi l'épidémie de choléra sur toute l'étendue de la province. D'après Jean-Paul Mbwebwe Kapo, 30 cas de choléra, dont 4 décès, sont enregistrés depuis la 10e semaine épidémiologique à ce jour. Les déclarations de Jean-Paul Mbwebwe Kapo, gouverneur des provinces, ont été diffusées ce jeudi soir sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC.
Chers compatriotes, le choléra est une maladie diarrhéique à début brutal, caractérisée par l'émission de ces liquides, profuse et parfois des vomissements évoluant rapidement vers le danger de mort. Notre province a déjà connu des épidémies de choléra en 2002, 2018, 2022, ayant entraîné plusieurs malades et beaucoup de décès. Cette année, dès la 10e semaine à ce jour, notre province, à travers 11 de ses 19 zones de santé, a enregistré 30 cas de choléra, dont 10 échantillons prélevés et acheminés à l'INRB Kinshasa, parmi lesquels 4 sont revenus positifs à l'agent causal de choléra, ce qui confirme la présence de cette maladie dans la province du Kasaï oriental. Ainsi, au vu de ces résultats, je déclare la province du Kasaï oriental en épidémie de choléra. J'appelle notre population au respect sans relâche des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains au savon et ou à la cendre, la couverture des aliments et la rassure que nos équipes techniques, accompagnées de nos partenaires en santé, sont déjà à pied d'œuvre pour maîtriser cette épidémie.
Retournons au Nord Kivu, cette fois dans les territoires des Béni, les activités reprennent timidement à Masala, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville des Béni. Il y a 2 mois, cette entité avait été attaquée par des rebelles des ADF, avec une dizaine de civils tués et l'incendie de plusieurs habitations par les assaillants. Marc Marofimbo pour les détails.
La population qui s'était déplacée dans la localité voisine des cantines commence à regagner Masala, ce qui permet la reprise timide depuis 2 semaines des activités dans cette localité qui avait été attaquée il y a 2 mois par les rebelles des ADF. Les activités champêtres, occupation principale de la population locale, ont également repris dans la zone. Sukusuku Mukubwa, chef de la localité de Masala, appelle la population de son entité encore déplacée à regagner le milieu.
Masala est un peu calme. Aujourd'hui, par exemple, nous étions dans une rencontre de plus de 100 personnes. Toutes les figures étaient de Masala. L'objectif était de sensibiliser la population, de faire appel aux autres, de revenir afin que nous continuions avec nos activités normalement, que nos enfants ne souffrent plus. Masala reprend sa vie normale. Tous nos cadres de base sont déjà là. Pour cela, donc, les maisons ont été incendiées et un comité d'urgence a été mis en place pour accorder à ceux qui retournent de l'espace afin de s'installer.
Signalons que depuis 2 semaines également, les forces conjointes des armées congolaises et ougandaises organisent des patrouilles à Masala et ses environs pour rassurer la population qui regagne le milieu. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les chercheurs et innovateurs congolais continueront à bénéficier de l'appui et l'accompagnement du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Cette assurance est du ministre Gilbert Kabanda. Il l'a fait savoir ce jeudi lors d'un échange avec la presse. En effet, après avoir présenté au premier ministre Judith Suminwa le 24 juin dernier près des 65 prototypes des inventeurs congolais pour une éventuelle mise en œuvre, le ministre Gilbert Kabanda attend désormais œuvrer pour la matérialisation du génie congolais pour le développement du pays. Jacques-Yves Molima.
Dans son adresse, Gilbert Kabanda spécifie en premier le caractère indispensable des inventeurs.
Les scientifiques, les chercheurs, avec bien sûr la mise en œuvre de leur prototype en industrie, qui sentent qu'ils sont indispensables au développement de notre pays.
De ce fait, ils préconisent un accompagnement en conséquence.
Nous sommes en train de mettre en place, avec mon homologue de l'industrie, et une structure interministérielle d'accompagnement de ces inventions dans leur prise en charge par les différents ministères.
Toutefois, pour réussir, il faut des moyens et le ministre a déjà une idée.
Nous allons créer un fonds souverain. C'est un fonds, on le met à la disposition des inventeurs avec une probabilité très élevée. L'invention a des chances de devenir un produit consommable.
L'idée a été suggérée au sommet de l'État et un forum national du génie scientifique congolais est en vue quant à ça dans les jours qui viennent.
Actualité internationale.
Un nouveau drame de l'immigration au large de la Mauritanie. Pour le moment, seule l'Agence mauritanienne d'information s'est fait l'écho de ces naufrages survenus au large de la Mauritanie et dont le bilan provisoire est déjà très lourd, 89 morts. Les victimes s'est trouvées à bord d'une grande embarcation de pêche traditionnelle qui a chaviré dans l'Atlantique à 4 km de la ville de Ndiango, explique l'Agence mauritanienne d'information. 9 personnes, dont une fillette de 5 ans, ont été secourues par les gardes-côtes mauritanien, alors que selon les survivants, l'embarcation qui avait quitté la frontière sénégalo-gambienne il y a 6 jours en direction de l'Europe avait à son bord 170 migrants clandestins. Les disparus se comptent par dizaines.
L'invité.
Le gouvernement congolais confirme la trêve humanitaire de 2 semaines obtenue par les États-Unis dans la crise de l'Est du pays. Cet arrêt des hostilités qui intervient ce vendredi 5 juillet à minuit doit permettre le retour volontaire des personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave, voulais-je dire. Dans une interview à Radio Capi, les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement indiquent qu'il s'agit d'un pas d'une série d'actions vers les retraits des troupes rwandaises de la RDC. Patrick Mouyaya est interrogé ici par Blaise Shindani Kambala.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour cher Blaise.
Confirmez-vous la déclaration de la Maison Blanche annonçant la trêve humanitaire de 2 semaines dans la guerre dans l'Est de la RDC?
Oui, je confirme la trêve obtenue par la Maison Blanche dans le cadre justement de l'urgence humanitaire dans l'Est de la RDC. Comme vous le savez, il existe une initiative portée par Avril Haines, qui est la chef des services d'intelligence américains, qui a été dans la région pour voir les 2 chefs d'État. C'est donc dans le cadre de ces mécanismes qui visent notamment la désescalade entre les 2 pays qu'une trêve a été obtenue pour permettre justement d'apporter l'assistance et l'appui humanitaire aux populations qui sont décimées par tous ces conflits et par les attaques répétées de l'armée rwandaise.
Pourquoi une trêve humanitaire et pourquoi pas une cessation totale des hostilités, messieurs les ministres?
Bon, écoutez, il y a des discussions qui sont en cours. Vous savez que nous avons de préalables, notamment en termes du respect du processus de Luanda. Mais si vous regardez la situation humanitaire, avec récemment d'ailleurs des cas que nous condamnons de la mort de certains des deux personnels humanitaires, vous regardez les nombres de populations déplacées, il est urgent que ces populations puissent être secourues. Je pense que c'est un premier pan d'une série d'actions qui suivront, notamment des pressions sur le Rwanda, pour qu'il puisse retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et cesser d'endeuiller nos populations.
Et quelle garantie pourra avoir la RDC pour savoir que cette trêve est respectée même de l'autre côté?
Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que nous resterons vigilants, et si vous lisez les communiqués de la Maison Blanche, vous allez voir qu'il y a un système de monitoring au dernier paragraphe qui est signalé, parce que le gouvernement américain eux-mêmes, à travers ses différents services, va s'assurer que cette trêve est respectée de tous. Et donc nous pensons justement qu'il s'agit fois d'abord de notre côté, mais ensuite du côté du gouvernement américain, parce que nous connaissons les agissements du Rwanda et ce n'est pas toujours
rapidement qu'ils obtempèrent à ce qui a été convenu. Et donc pour les cas en question, nous comptons sur la vigilance de nos phares d'essai, mais nous comptons aussi sur le mécanisme mis en place par le gouvernement américain pour s'assurer que le monitoring est assuré sur place et pour que la trêve produise ses effets dès ce jour le 5 juillet.
Monsieur le ministre, selon la déclaration de la Maison Blanche, les USA continuent de soutenir le processus de Luanda pour remédier à la crise actuelle. Que pouvez-vous dire pour ce processus qui semble en tout cas bloqué?
Écoutez, le processus bloque parce qu'il y a un partenaire à la table qui veut le blocage, qui s'appelle le Rwanda, avec des subterfuges de tout genre pour continuer l'opération de pillage dans l'est de la République démocratique du Congo. De notre point de vue, nous considérons que la feuille de route de Luanda, c'est la feuille de route qui répartit les tâches et donc c'est la voie qui doit nous conduire vers la paix. Pour autant que les pays comme les États-Unis multiplient alors de pressions, pourquoi pas des sanctions contre le Rwanda, parce que comme vous le savez, il y a des rapports qui documentent la présence de ces troupes dans l'est de la RDC. Je pense que ça, c'est pourra être un élément déclencheur pour permettre la suite du processus. Mais aujourd'hui, la trêve humanitaire dont on parle, on l'a dit, pour des besoins humanitaires, cela dit, nous connaissons les réalités de terrain, nous connaissons le comportement de l'armée rwandaise. Cela ne veut pas dire qu'il y aura un relâchement de notre côté. Nous allons continuer à rester vigilants pour s'assurer que d'autres initiatives ou d'autres aventures de l'ennemi ne prennent pas forme.
Oui, concernant maintenant la reconduction de l'embargo sur les armes en RDC, pour être clair, est-ce que la RDC peut-elle acheter librement les armes aujourd'hui?
Le gouvernement de la République démocratique du Congo peut librement acheter ses armes après la suspension, je pense en décembre 2022, de la mesure portant un régime de notification. Mais par contre, le régime qui a été reconduit par le Conseil de sécurité vise plutôt les organisations non gouvernementales et autres entités, notamment le groupe armé, les différents réseaux mafieux qui les approvisionnent en armes et munitions. Et donc, la mesure des reconductions qui a été prise ne concerne pas le gouvernement de la République démocratique du Congo et cela doit être bien clair.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Alain Goy, supervisé et coordonné par Alain Irung Mouchinj et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalou Lambombo, c'est moi à la présentation. Merci de l'avoir suivi.